Vous écoutez La Vagabonde, un podcast littéraire. Je suis Marine Stizy.
Et je suis Léa Schiavo. Bienvenue dans le premier épisode.
La vérité se cache-t-elle dans les bouquins? Peut-on découvrir le monde au travers des livres?
Alors, pour débuter ce cycle de conversation, on a choisi de parler de voyage. Et par voyage, on entend plutôt la recherche de perspectives, de liberté, l'émancipation, le dépaysement, voire le déracinement. Mais peut-être qu'avant tout, on peut commencer par vous parler du projet, qui a mis un peu de temps à se monter, mais ça y est, on y est, on en est fiers, et le voilà, il est tout beau, tout neuf. La Vagabonde, qu'est-ce que c'est ? C'est une conversation pour nous exprimer librement, nous interroger sur des thèmes intimes, sociétaux, des thèmes qui nous touchent, qui nous parlent. Donc on a choisi tous les mois de sélectionner quatre bouquins, ou peut-être plus, on va voir, on sait pas, on n'a pas déterminé, et essentiellement écrit par des femmes, parce que c'est ce qui nous intéresse, il faut être honnête.
Et on peut aussi évoquer pourquoi nous l'avons appelé La Vagabonde, ce podcast. Alors c'est tout d'abord parce qu'on a trouvé que c'était un sacré beau mot. La Vagabonde, ça sonne vraiment comme des envies de liberté, des routes qui n'en finissent plus, un soleil un peu écrasant, partir sans laisser d'adresse, pour le meilleur ou tout simplement l'ailleurs. Et pour une fois, on a aussi l'impression que c'est un mot qui est moins négativement connoté au féminin qu'au masculin. Et bon, entre nous, c'est assez rare pour être souligné, hein, franchement. Et c'est aussi, et peut-être surtout, un livre qu'on adore, un livre de Colette, qui se passe en partie dans un théâtre, enfin plutôt un café-concert. Et pour la petite histoire, Léa et moi, on s'est rencontrés dans un théâtre qui était, il y a fort longtemps, un café-concert. Alors forcément, ça nous a parlé. Dans la littérature de voyage, les femmes sur la route ne sont pas ce qu'il y a de plus courant. En réalité, par littérature de voyage, on imagine tout de suite des bouquins comme ceux de Jules Verne, Les Grandes Explorations, ou genre Sylvain Tesson, Sac à dos et Grande Veillée au clair de lune, Into the Wild, ce genre de trucs. Mais dans la section romans de voyage, de n'importe quelle librairie, c'est triste mais vrai, il n'y a généralement pas beaucoup de femmes, ou alors elles sont celles qu'on laisse sur le continent, c'est la femme fragile qui ne peut pas voyager, ou bien c'est la catin, la prostituée qu'on paye dans un port un peu crade, un peu sordide. Mais dans tous les cas, qu'il s'agisse de la femme qu'on épouse ou de la femme qu'on paye, elle est toujours statique, car c'est l'homme qui circule. Et oui, parce que bon, bah, en fait, il faut bien quelqu'un pour s'occuper des chaussettes, hein, et des enfants, enfin tout ça. Et pendant ce temps-là, monsieur cartographie l'Amazonie, hein, vous voyez le genre. Il y en a eu quelques-unes, on empêche, des femmes voyageuses qui ont raconté leurs histoires. Genre la journaliste d'investigation américaine Nellie Bly, qui réalisait un tour du monde en 72 jours entre 1889 et 1890, et qui raconta son périple dans le journal Le New York World. Jules Verne, qui a croisé son chemin pendant que Nellie Bly passait en France, ne tarissait d'ailleurs pas d'éloges à son égard.
Oui, parce que du coup, Jules Verne l'a écrit, mais elle l'a fait en réalité. Donc, il y avait quand même de quoi s'envoyer des fleurs. Et dans le genre badass comme ça, on a aussi Delia Akeley, qui était une exploratrice du début du XXe. En fait, elle était d'abord femme d'explorateur. Elle a suivi, soutenu son explorateur de mari pendant des années et des années. Elle a fini par divorcer. Et à 50 ans, comme les explorations et les expéditions lui manquaient, elle a décidé de lancer sa première expédition africaine en solo.
Donc, badass de ouf.
Voilà, c'est le même genre. Et on retrouve d'ailleurs ces petites histoires dans la géniale bande dessinée Les Culottés de Pénélope Bagieu. Voilà, qu'on recommande aussi.
Absolument. Mais après, bon, on va quand même pas se mentir, elles font partie des exceptions. Cette nana, il aura fallu pas mal de temps pour que ça change, que dans les rayons de littérature de voyage, on trouve quelques meufs et pas que des mecs.
Parité toujours. Du coup, qu'est-ce qu'on va trouver dans la Vagabook aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut qu'on explique le petit jeu de mots, la Vagabook, peut-être ?
Non, il parle de...
Non, ça parle de soi-même.
Il parle tout seul.
C'est notre petit club de lecture à nous.
Oh oui.
Donc, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui ? On a choisi de parler de quatre autrices qui nous tiennent tout à cœur. Il s'agit de Viviane Gornick, de Chimamanda Ngozi Adichie, de Colette, évidemment, puisque c'est notre, disons, passion commune.
Notre prêtresse.
Et de... Gloria Steinem, voilà. Et donc là, justement, elles vont nous accompagner sur cet épisode pour explorer le thème du voyage sous différentes manières. Donc quatre romans, quatre personnages et quatre itinéraires qui donnent une image différente chacun du voyage. Alors, il y en a une qui passe sa vie sur les routes des États-Unis, une vie nomade qui nourrit son activisme et militantisme féministe. On a une comédienne qui est sans cesse en tournée et qui sillonne les cafés-concerts de France au début du XXe siècle. On en a une qui, au Nigeria, est contrainte par les limites de la société, traverse l'Atlantique à la recherche d'un avenir meilleur. et enfin une qui, en guise de voyage, déambule dans les rues de Manhattan et de ses réflexions nomades construites au gré de ses balades, elle écrit, rêve et crée. Donc en fait, on a voulu croiser ces trajectoires-là, celles des personnages, mais aussi de leurs autrices, pour explorer les différentes images qu'elles peuvent donner d'un voyage, qu'elles soient évidentes ou bien suggérées.
Mais globalement, dans tous les cas, les quatre romans dont on va parler aujourd'hui parlent tous, sans exception, d'émancipation par le voyage, ou par le mouvement, dans tous les cas. C'est un souhait que bien des femmes, mais des hommes aussi, hein, cultivent. Voyager pour devenir, enfin, celui qu'on est au fond de nous-mêmes, celui ou celle que l'on cache sous des espèces de couches de normalité et de quotidien. Le voyage pour donner la force de s'accomplir, car la réalité de la vie nous freine. Dans le cas de Viviane Gornick, elle fuit son Bronx de naissance et s'approprie son nouvel espace, l'île de Manhattan, pour nourrir et stimuler sa créativité. Chimamanda Ngozi Adichie nous parle de la nécessité pour les jeunes Nigériens de s'expatrier vers les pays occidentaux pour avoir la possibilité de construire une carrière. René Néré, double évident de Colette et personnage central de La Vagabonde, choisit la tournée plutôt que l'amour, la vie sur la route, l'insécurité d'une certaine manière, tout ça plutôt que la stabilité de ce qui pourrait l'attendre à Paris si elle choisissait l'amour. Elle ne peut pas sacrifier sa liberté, même si parfois cela implique de la solitude. Et concernant Gloria Steinem dans son autobiographie, là pour le coup le voyage est complètement poussé à son paroxysme, puisque ce n'est pas perçu comme un moyen mais comme une fin, c'est un état, elle n'a jamais eu à questionner une autre réalité que celle-là. Pour le coup le voyage est véritablement sa manière de vivre.
Oui, et d'ailleurs en aparté, je crois que ce qui nous a plu dans ces romans, c'était le fait de voir à quel point les autrices et les personnages allaient jusqu'au bout de leur idée, c'est-à-dire mettaient tous les moyens pour arriver à leur fin, même si ça voulait dire quelque part renoncer à certaines choses. Mais la liberté était l'objectif final au final.
Ouais, des vraies prises de risque.
L'objectif final au final. Et donc, pour rebondir sur Gloria Steinem, donc elle a écrit « Ma vie sur la route », qui a été publié il y a peu, donc en mars 2019.
En français.
En français, tout à fait, merci. Et donc, pour vous dresser un tableau rapide du personnage, puisque ça en est un. Gloria Steinem, c'est un parcours de vie assez atypique, voire remarquable, et c'est ce qu'elle choisit de raconter justement dans cet ouvrage. Petite fille, elle voit le voyage et la route comme une contrainte. En fait, c'est son père, qui est totalement allergique à la stabilité, qui l'embarque sur les routes durant toute son enfance. Il est quasiment incapable de rester au même point en permanence. Donc, de temps en temps, paf, il embarque toute la petite famille et puis on va ailleurs.
Allez-y.
Et ça signifie que ça signifie assez un certain nombre de choses pour une petite fille de cet âge. Ça signifie qu'elle ne va pas à l'école, qu'elle a très peu d'amis, voire pas du tout, qu'elle apprend notamment à lire grâce aux panneaux publicitaires qu'elle voyait depuis la fenêtre de la voiture, ce qui est assez particulier. Et tout ça, ça fait d'elle un personnage complètement hors norme, complètement anticonformiste. Et donc, dans ses mémoires, elle explique que petite, cet état de voyage constant lui faisait fantasmer une vie beaucoup plus normale, en fait. Mm-hmm. En tant que jeune enfant, elle voulait une vie égale à celle des autres enfants de son âge. Mais en faisant le bilan, elle réalise assez vite, en fait, que la route lui a apporté beaucoup de choses, et notamment que c'est un outil d'apprentissage hors du commun. Et on le voit aussi quand elle décrit toutes ces années de militantisme et d'activisme féministe. C'est grâce justement à cet état ce nomadisme qu'elle a pu se forger une conscience et puis aussi pouvoir l'appliquer et militer réellement pour cette cause.
Ouais, complètement. Et puis elle a une phrase très jolie qui est « Voyager est crucial, c'est une école de la singularisation », écrit-elle, page 32.
Précisons.
Bon, mais bon, dans tous les cas, cette citation, pour le coup, elle nous montre vraiment l'importance du mouvement et de l'éloignement de l'espace domestique. S'il est traditionnellement attribué à la femme et que l'espace public est très clairement dominé par les hommes, toutes nos héroïnes, et toutes époques confondues, transgressent cet état de fait. Elles voient vraiment tout l'espace domestique comme une espèce de contrainte, elles le rejettent en bloc. Le foyer est souvent vu comme un espèce de lieu de passage uniquement, si toutefois il y en a un, parce que c'est même pas forcément le cas. Dans sa conclusion, pour le coup, Gloria Steinem, elle avoue qu'elle avait presque une espèce de phobie de ça hein, pendant des années. Avoir une maison, c'était franchement pas son truc. Même si, comme tu le disais, le fantasme gamine, quand elle a vieilli, ça a pu être du tout le cas. Mais elle a fini par le fonder, cette espèce de foyer plus vieille, après avoir un peu vécu plus de trucs.
Avec la maturité.
Avec la maturité, c'est ça. Elle a une citation un peu cool où elle dit que acheter des bougies fut presque un plaisir orgasmique.
Ouais, elle a passé la trentaine.
Coucou,
quoi, en fait,
la trentaine. C'est ça. Mais c'est, pour le coup, c'est vraiment uniquement à la fin de sa vie. Hein. Mais elle admet aussi, et ça c'est intéressant, que les deux sont possibles, que voyager et avoir un chez-soi... qu'on peut partir et revenir. C'est un peu la beauté de l'entre-deux, être ailleurs et ici, être sur la route et avoir un foyer. Tout ça, c'est possible.
Oui, ça rend l'escapade plus savoureuse de revenir sur son canapé, ouais. Après, visiblement.
Puis un joli canapé.
Et avec des bougies.
Oh.
Et alors, cette vision du foyer, de l'espace domestique versus l'aventure, l'ailleurs, on le retrouve aussi dans La Vagabonde. René Néré, qui est donc le personnage principal, et comme disait Marine, le double de Colette, a une vision du foyer qui est assez contraire à ce que Gloria Steinem développe à la fin de ses mémoires. Elle voit pas de beauté dans l'idée de se construire une maison, un foyer. Elle assimile vraiment ça à un moment statique, quoi. Enfin, ouais, complètement sédentaire, et ça l'a fait flipper, visiblement. Et là-dedans, c'est vrai que on remarque que c'est Colette, en fait, qui parle, puisque en fait La Vagabonde a été écrite peu après sa séparation d'avec Willy, donc son premier mari. Et donc quand René quitte son foyer, c'est en fait aussi Colette qui quitte le sien. Il faut savoir aussi que, bon, on est quand même au début du XXe siècle, on va en reparler, mais du coup, c'est une vraie mise en danger à l'époque pour une femme de divorcer et puis de mener sa vie en indépendance.
C'est une prise de risque colossale.
Tout à fait. Et dans le roman, c'est assez particulier, elle le décrit assez bien. Elle aménage, pas du tout son appartement, et un refus de la déco et assez totale, et elle se plaît dans cette vie nomade, c'est-à-dire la valise sans cesse dans l'entrée, la trousse de toilette déjà prête à être embarquée. Et d'ailleurs, en fait, on sent que c'est même carrément son moteur, en fait. On le retrouve aussi avec Viviane Gornick, d'ailleurs. C'est assez marrant, puisqu'elles ont toutes des...
Des phobies de la déco.
Des phobies de la déco, ouais. En fait, c'est un gros point commun. Viviane Gornick, pour le coup, a le même sentiment. Elle parle de son installation, notamment avec son premier mari, elle aussi. L'appartement, pour elle, c'est juste une preuve du passage d'un état mouvant à la sédentarisation. Et visiblement, elle n'était pas prête à l'accepter non plus. Et au passage... puisqu'on aime beaucoup Colette et son style, ça vaut le coup de parler de cette manière qu'elle a de décrire l'univers du café-concert à cette époque, puisque, je le rappelle, Renée Néré est comédienne et mime dans des cafés-concerts, et part sans cesse en tournée. Et donc l'ambiance qu'elle retranscrit se substitue complètement à ce foyer absent et vide auquel elle fait référence. Alors on a les loges froides, on a les attentes interminables entre les représentations, les longs voyages en train, la valise qui est faite, puis défaite, le maquillage qui colle à la peau, le public qu'il faut convaincre, parfois la boule au ventre, le trac. Alors tout ça, ça paraît pas très ragoûtant, ça paraît un peu froid et peu accueillant,
ouais.
Voilà. Mais en fait, elle préfère tout ça au confort d'un foyer, avec mari, enfant, etc. On sent que ça, c'est ça, sa maison, c'est son univers, et c'est un choix qu'elle fait, en fait, d'être là-dedans. Et alors, justement, déserter le foyer et en rejeter l'idée, c'est bien. Je sais d'ailleurs qu'il y a quelque chose de grisant là-dedans. Pour faire un petit insert personnel, moi-même, je sais que j'étais longtemps dans cette optique, pendant très très longtemps même. J'avais moi-même une petite phobie, des trous dans les murs, de mettre des étagères, des miroirs ou même des bougies.
Acheter des étagères Billy chez Ikea.
Voilà, l'étagère Billy chez Ikea, c'était hors de question. Pour moi, il fallait pouvoir boucler sa valise et embarquer toutes ses petites affaires en deux temps trois mouvements et hop, partir vers d'autres horizons et aventures. Je trouvais que c'était la liberté, quoi.
Donc ça
a fait totalement écho avec disons, mon expérience perso. Mais on sait aussi que ça signifie faire des choix, comme ce que je disais plus tôt.
Ouais.
Et en fait, c'est ce que tous nos personnages font, et plus ou moins dans la contrainte, ce qui rend les choses relativement intéressantes, puisque on a leur insight sur la question.
Exactement.
Et donc, Et donc, quand on parle de contraintes, généralement, ce qu'on retrouve comme contrainte à justement ce voyage permanent, c'est surtout la solitude. Ouais. Notamment, René, le personnage de Colette, se définit d'emblée comme une dame seule. Elle admet que c'est vraiment ce statut, enfin, c'est le statut qui est la condition sine qua non, en fait, à sa liberté. C'est le prix à payer, entre guillemets. Après, c'est un choix largement assumé. Mais d'ailleurs, c'est aussi un choix assez audacieux, puisqu'à l'époque, une dame seule, ça signifie non seulement célibataire, mais surtout divorcée. Et ça, c'est un véritable outrage par rapport à la société. Voilà, en fait, en gros, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'elle elle commence son voyage à partir du moment où elle refuse la domination, on va dire, toxique de son mari, qui, lui, est largement infidèle et qui lui ment en permanence, etc. Donc, elle a décidé de prendre ses clics et ses claques. Et encore une fois, ça fait assez écho avec l'expérience personnelle de Colette.
Oui, complètement. Mais même presque, comme tu le disais, de toute façon, au-delà des infidélités, c'est vraiment une histoire de domination de son mari sur elle, déjà, mais aussi sur ses ambitions personnelles. Ouais. Renée, elle voit le voyage comme un moyen de s'affranchir de cette domination-là, mais c'est aussi comme un moyen de se réaliser elle-même. Et même si, encore une fois, hein, tu le disais tout à l'heure, le boulot est difficile, c'est pas très ragoûtant, il fait froid, c'est compliqué pour une nana de s'assumer en tournée et tout. Mais en fait, elle l'aime profondément, ce boulot, c'est presque sa raison de vivre. Et ça aussi, ça renvoie terriblement à l'expérience sentimentale de Colette et personnelle de Colette, parce que son premier mari, pour en dire trois mots, Willy, donc, qui était un aristocrate déjà assez connu quand il l'a rencontré.
Dans le tout Paris.
Dans le tout Paris.
C'est bien.
Il lui a, pour le coup, entre autres misères, parce qu'il ne lui a pas fait que ça, le bougre, mais il l'a dépossédé de ses droits sur les éditions des Claudine, qui sont les premiers romans que Colette a écrits, mais qui étaient signés Willy, parce que le nom de Willy se vendait mieux.
Hein, ouais. Donc bon, c'était un pro du marketing.
On va signer Willy et pas Colette, ça ne sert à rien.
Ouais.
Mais après. En quelques phrases, on va quand même peut-être revenir sur l'histoire de la vagabonde, histoire que tout ça, ce soit très clair, parce que là, on parle, mais...
Racontons l'histoire.
Racontons deux secondes. L'histoire de la vagabonde, c'est donc l'histoire de Colette dissimulée derrière une fiction. Aujourd'hui, on appellerait ça une autofiction, même si à l'époque, pour le coup, le terme n'existait pas. Et d'ailleurs, c'est Colette elle-même qui a fait partie des écrivaines qui ont popularisé ce genre littéraire, même presque fondé, d'ailleurs. Et donc, La Vagabonde raconte la vie d'une femme fraîchement divorcée, Renée Néré, comédienne, qui se produit chaque soir sur la scène d'un café-concert. Il y a une semaine où un homme vient la voir chaque soir. Il s'appelle Maxime et il tombe fou amoureux d'elle. Il insiste pour venir lui rendre visite dans sa loge, lui offre des cadeaux, des fleurs, machin, grand jeu, tu sais. Et au début, elle est craintive, hein, parce que, bon, encore une fois, elle vient de divorcer, ouais. C'est compliqué.
La confiance a été rompue avec la gente masculine.
Complètement. Et donc, elle est craintive, mais elle finit par se laisser amadouer, elle se laisse tenter par les prémices d'un amour qu'elle sent évoluer gentiment. Bon, ça, ils se font des petits bisous, c'est mignon comme tout. Et puis, arrive une tournée de 40 jours. Pour le coup, Max, il lui demande de ne pas y aller, parce que pour lui, se séparer d'elle, mais quel enfer, c'est horrible. Et elle se pose la question, hein, mais elle peut pas, elle y va. Enfin, elle y va parce que...
Elle aime son travail.
Elle aime son boulot, et puis sa liberté, elle l'a payée trop cher. Enfin, elle peut pas, en fait, juste pour un homme qu'elle a rencontré comme ça, ne pas y aller. Enfin bref, elle y va. Bon, les premiers jours, elle lui écrit, enfin, il s'envoie des lettres un peu enflammées, machin. Ouais. Et puis, on sait pas tellement comment, mais n'empêche que l'amour disparaît presque. Elle finit par plus y croire. On se dit que 40 jours, c'est rien. Aujourd'hui, tu te dis... Enfin, c'est que dalle,
oui,
40 jours.
C'est pas une séparation insurmontable.
Ouais, c'est pas fou. Et n'empêche que, voilà, elle y croit plus. Max ne lui manque pas. Et elle ne le reverra jamais. Voilà.
Oui. Et voilà, point final. Mais effectivement, oui, là, on remarque... Enfin, on met pas les mots vraiment dans la fin du roman, mais on sent que quand même, c'est un peu sa demande de ne pas partir en tournée et de le préférer, lui, à son travail, qui l'a refroidi un petit peu, ce qu'on peut comprendre, d'ailleurs.
C'est trop lui demander.
C'est un peu trop lui demander, voilà. Et puis, elle sent que ça peut l'enfermer dans un... Comment dire ?
Dans un
statut de femme mariée qu'elle a plus envie d'assumer du tout, quoi. Et d'ailleurs, ça, ça, disons que d'un point de vue presque politique, on réalise l'importance de ce genre de texte écrit à cette époque-là. Il donne une vision, une image de la femme très très éloignée de la vision traditionnelle de la femme cantonnée à la sphère privée et gardienne du foyer, pour le coup une épouse comme on était censé la concevoir. Ouais. Et en fait, c'est assez provocant comme récit de vie. C'est très très libre, voire trop libre pour les mœurs de l'époque. Mais c'est évidemment ce qui fait sa force au livre et à l'autrice, même encore aujourd'hui. Disons que les choix auxquels est confrontée Renée, on pourrait très bien y être confrontés nous aussi.
Et puis c'est pas des choix si faciles, même en 2019. Voilà. C'est pas des choix qui sont si évidents.
Et la question se pose, même en 2019.
Ouais, carrément.
Même si le divorce n'est pas aussi, pas aussi proscrit.
Heureusement.
Et d'ailleurs, pour parler un peu de Colette, on s'est retrouvé un peu confuse quand on s'est mis à regarder de plus près son itinéraire personnel. Il est passionnant, son itinéraire personnel, mais effectivement, on a tendance à considérer Colette comme une écrivaine féministe aujourd'hui.
Ouais, c'est ça. On peut le croire très facilement.
On peut le croire assez facilement, à la fois quand on lit la biographie de sa vie, à la fois quand on lit les bouquins. Ouais. On a vraiment le sentiment de se retrouver face à une féministe assumée qui est très au clair avec l'idée de la liberté de la femme, de le revendiquer, de donner voix à des itinéraires de femmes fortes. Alors que les autres écrivaines dont nous parlons sont ouvertement féministes, elle, Colette, ne s'est jamais revendiquée en tant que telle. Et voire, elle se positionne à l'inverse. Elle a toujours assumé ses choix qui étaient pour le coup tous assez culottés, assez scandaleux, plutôt subversif pour l'époque.
Ouais.
Pour n'en citer que quelques-uns, elle était ouvertement bisexuelle, donc divorcée. Elle a chanté donc dans les cabarets, les cafés-concerts.
À moitié nue.
À moitié. Oui, ça a été la première, je crois, à se montrer nue dans les cafés-concerts. Ouais. Donc scandale sur la scène. Elle a eu une aventure avec son beau-fils de 20 ans, son cadet. Donc bref, c'était. Il y en a pas mal des comme ça. Et en fait, elle faisait pas tout ça par engagement politique. Elle disait même que la politique n'était pas une affaire de femme. En fait, on remarque que Colette, c'est un personnage de l'intime. Elle se laisse mener par ses propres envies, elle assume ses désirs, elle les réalise sans se soucier de la portée de ses actes, même à un niveau plus large. En fait, c'est l'indépendance totale.
Elle ne se préoccupe pas du tout de ce qui se passe à un niveau
étatique. Elle se fout complètement de ce qu'on va lui...
Ouais, elle s'en tape.
Voilà. À la fois du camp, dira-t-on, et à la fois de la politique.
Complètement.
Ce qui est le plus frappant, c'est sa position sur les suffragettes. Elle est jugée comme des terroristes, en fait. Donc on remarque bien qu'à l'époque, elle n'était pas du tout appelée par ce genre de combat politique. Donc c'est assez ambigu. Et en même temps, on se demande comment on pouvait se définir féministe à l'époque. Est-ce qu'on pouvait se définir féministe?
Est-ce que ça avait un sens au début du siècle dernier?
Tout à fait.
Complètement.
Donc voilà, c'est Colette, c'est
elle, petite ambiguïté à elle.
Voilà, ouais. Mais c'est, on la retient surtout pour ses choix singuliers et pris en totale liberté.
Ouais, complètement. Bon, pour le coup, en voilà une qui s'assume complètement en tant que féministe et il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Viviane Gornick, donc on a choisi de parler de La femme à part, qui a été publié en 2015, qui est le second volet, une sorte de suite d'un premier récit autobiographique que Gornick a publié aux États-Unis en 1987, mais qui n'a été publié en France qu'en 2016. Pour le coup, à contrario de Colette, qui d'ailleurs c'est l'idée de l'autofiction, mais qui se cache derrière un personnage, elle assume complètement le jeu. Elle ne se cache pas derrière qui que ce soit. On est vraiment dans l'autobiographie pure, l'analyse de soi, avec pour le coup beaucoup de sincérité. C'en est même d'ailleurs un peu déstabilisant parfois. Ouais. Moi personnellement, j'ai lu La femme à part avant de lire
Attachement féroce.
Attachement féroce,
qui était précédent.
Le premier volet de ces autobiographies.
Ouais.
Et principalement, un attachement féroce, c'est parfois d'une violence terrible quand elle parle de la relation qu'elle entretient avec sa mère. C'est déroutant, en fait, une telle sincérité. On n'a pas tellement l'habitude, en fait, de ça. Et bon, après, c'est magnifiquement écrit. Elle a un sens du rythme qui est fou, Gornick. Un sens de l'image, c'est super.
Et on sent la justesse aussi dans les émotions, les sentiments qu'elle retranscrit, qu'ils soient positifs ou négatifs, d'ailleurs, par rapport, justement, à la relation mère-fille qu'elle décrit.
Ouais, complètement, complètement. Et ça, c'est pour le coup, c'est aussi quelque chose. On a vraiment l'impression, bon, dans les deux volets, mais donc forcément dans La Femme à part aussi, l'impression d'être véritablement dans ses pensées. On saute d'une idée à l'autre, d'un lieu à l'autre, au fil de ses pérégrinations dans Manhattan. Mm. On la suit dans ses réflexions intérieures, son processus de création. On sent que c'est vraiment des balades qu'elle décrit, les moments où elle marche un peu, presque sans but, dans New York, ses errances presque, qu'elle nourrit son inspiration. C'est cette manière d'être à son art, pour le coup, c'est un procédé qui est assez répandu dans la littérature de manière globale.
Ouais, et en plus, elle en parle aussi dans le livre, puisqu'elle se relie à des écrivains qui partagent cette manière de penser la création, donc l'idée de s'approprier un lieu, espace, et de s'en nourrir pour créer, pour nourrir une réflexion. Mm. Et donc, elle cite notamment Dickens ou Samuel Johnson, qui, au XVIIIe siècle, utilisait la ville pour sortir de sa dépression. On retrouve ce lien à l'humanité, en fait. C'est une manière de se relier à l'humanité, dit-elle, pour lui rendre sa vivacité d'esprit. Mm. Elle dit même, la ville avait un sens, car elle lui permettait de supporter la solitude. Donc, en parlant de l'auteur qu'elle cite. Et en fait, on réalise que pour elle, c'est une manière de se sentir dans le monde, de se sentir ancré dans une ville, un lieu, et de se confronter aussi à l'autre et à ce qu'on renvoie. Et c'est ça qui nourrit justement ces réflexions.
Ouais. Et la ville de New York, et donc pour le coup surtout Manhattan, là, c'est presque un personnage à part entière. Hein. New York, ça la fascine complètement. Bon, ça l'effraie aussi. Mais en même temps, qui n'est pas effrayé
par la grande ville,
par la grandeur. Mais elle a un attachement à New York qui est complètement irrévocable et qui est presque charnel, hein, pour le coup.
Ouais.
Mais d'ailleurs, c'est pas anodin, en fait, quand on considère le background de Gornick, parce qu'elle vient du Bronx, qui est pour le coup à ses yeux l'équivalent d'un village vis-à-vis de la métropole voisine. Ces vagabondages dans la ville de New York, enfin à Manhattan, sont véritablement triomphants, car ils lui permettent d'affirmer sa possession de la ville qu'elle convoite, enfin, et puis qu'elle convoitait tant quand elle était jeune. Ouais. Elle se l'est vraiment appropriée à tel point qu'elle devient sa complice, un espèce de réceptacle de ses expériences. Elle en tire des confessions et une introspection qu'elle transforme ensuite donc en œuvre littéraire, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Mais pour le coup, pour revenir au village, au Bronx, etc., Manhattan, c'est un espèce de... Et New York, c'est un marqueur d'évolution sociale pour elle. Elle l'associe, et a raison, hein, à une vie intellectuelle, artistique foisonnante. Et par contre, elle accorde pas du tout ça au Bronx, bien au contraire. Hein. Par rapport à ça, d'ailleurs, nous, on a eu envie, en lisant ça, en fait, on a ressenti un peu toutes les deux, Léa et moi, la même chose en lisant ce bouquin. On s'est rendu compte qu'on pouvait faire rapidement un espèce de lien entre ce que Gornick vit et ce que nous avons vécu. Moi, personnellement, je viens de banlieue. J'ai pas grandi très très loin. J'ai grandi à quelques kilomètres de Paris, 15 minutes de RER. En réalité, pour ainsi dire, c'est rien. Hein. C'est vraiment que dalle. Mais j'ai toujours ressenti qu'il y avait véritablement quelque chose que j'assumais pas là-dedans, notamment quand j'ai surtout commencé à avoir des amis parisiens. J'ai toujours su que le jour où j'emménagerais à Paris serait le premier jour de ma véritable vie, entre guillemets. C'est débile à dire, hein, mais j'assumais pas du tout de venir de banlieue, j'assumais pas du tout de devoir m'inquiéter du dernier RER quand tous mes potes parisiens, je m'en fous, je prends un taxi. Putain, moi, le taxi, il va me coûter 45 balles. Non, pas du tout. Après, j'ai quand même fini par le considérer comme une force, hein, Mais ça a été un chemin compliqué. Moi, après, maintenant, ok, j'assume complètement de ne pas avoir passé mon bac, je ne sais pas, genre à Henri IV ou à l'école alsacienne. Mais ça a été un chemin compliqué. Aujourd'hui, je crois que je suis capable même de voir tout ce que ça m'a apporté d'être dans un lycée, dans une cité du 94, en termes de mixité sociale, notamment. Pour revenir à l'entité sociale, moi, je pense que j'avais de la chance. Hein. Je vivais dans une partie pavillonnaire de ma ville. On avait un jardin. Je faisais du vélo globalement avec mes potes. Enfin, voilà. Enfin, c'était pas le bagne. Hein. Oui, ça c'était pas dramatique non plus. Mais enfin, je veux dire, par rapport, moi, j'avais quand même des potes qui vivaient donc dans la cité, qui vivaient dans un appartement vraiment vraiment petit, qui partageaient leur chambre avec leurs frères et sœurs et tout. Et je crois que même à 12, 13 piges, moi, j'étais déjà conscience, en fait, de cette violence, de ça.
Ouais, et c'est normal. Et c'est vrai que Gornick le retranscrit aussi quand elle parle du Bronx et qu'elle le confronte à New York. C'est-à-dire, on sent vraiment un mur qu'il peut y avoir
entre son
tissu social au Bronx et son tissu social à Manhattan, où là, on a la vie artistique, ses amis... entre guillemets, au placé, ou du moins qui font partie de l'élite artistique, etc., qui se confrontent du coup au Bronx, où là, pour le coup, c'est sa famille, elle en a une vision assez grise, disons.
Oui, très grise.
Et c'est vrai qu'on peut avoir ça, moi aussi, je peux aussi relater des choses là-dessus.
Parle-nous de toi, Léa.
Je viens de province, entre guillemets, bien sûr, puisque c'est un terme un peu compliqué, bizarrement. Et quand on vient de province, c'est vrai que selon les envies et les aspirations qu'on a, Paris semble un peu la destination obligatoire. Pareil, moi, cette absence, entre guillemets, de choix m'a toujours un peu chiffonnée, mais visiblement, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est vrai que quand on débarque, entre guillemets, alors je ne veux pas du tout dramatiser, mais on peut ressentir un petit décalage, parce qu'effectivement, en termes de, peut-être de tissu social ou culturel, selon la ville dont on vient, la ville provinciale donc, dont on vient, peut se trouver un peu moins attrayante que Paris. Et en revanche, quand on vient du coup de province, on se sent parfois un peu estampillé et ça demande une petite période d'ajustement, plus ou moins longue, pour assumer tout ça. Et c'est vrai que les distances qui séparent Paris et la ville d'origine, elles peuvent paraître assez courtes au final. Il s'agit d'un TGV, c'est 3h30, c'est pas grand-chose. Mais en réalité, c'est un vrai voyage qui s'opère quand on s'installe, quand on décide de s'intégrer réellement à une nouvelle vie. Et le décalage est d'autant plus grand quand on voit la différence qu'il y a entre une vie parisienne et une vie dans une ville plus modeste, disons. Après, il faut voir comment on le gère, l'assumer, en avoir honte. Enfin, je sais que ça peut être un sujet. On peut aussi l'assumer, même le proclamer, en faire une fierté. Moi, je ne sais pas très bien comment je me positionne par rapport à ça. Je crois que j'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête là-dessus, surtout. Mais ça peut poser certaines questions, en fait. Cette idée de voir Paris comme un moyen d'évoluer socialement, c'est un peu... j'ai un peu du mal à le verbaliser parce que je n'ai pas envie de tomber dans le déterminisme. Mais effectivement... Paris, ça reste peut-être un moyen d'évoluer socialement, même si c'est étrange de le dire comme ça. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai vécu ailleurs qu'à Paris ou dans ma région d'origine, notamment en Italie. Et ce qui est assez marrant, c'est que ma période d'adaptation à Rome a été bien plus courte que ma période d'adaptation à Paris. Donc ça, c'est assez marrant.
De là à dire que Paris est une ville difficile, il n'y a qu'un pas.
De là à comparer Avignon au Bronx, par contre, c'est un peu fort. Bon, bref. Dans une moindre mesure, évidemment, ça nous a fait... L'expérience que Viviane Gornick décrit dans La femme à part a fait écho chez nous. Et elle, en revanche, on remarque qu'elle rejette complètement le Bronx, elle le bannit carrément de son environnement. À partir du moment où elle a eu la possibilité d'en partir, voire de fuir, le terme, ce serait peut-être plutôt ça d'ailleurs. Mmh. Elle dit d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant, que finalement, en fait, c'est plus dur pour elle d'habiter tout près. Et c'est là que Marine, tu disais, le fait d'habiter dans le 94, c'est tout près de Paris, mais finalement, ça semblait très très loin.
Ouais, ouais.
Et donc, elle dit que le fait d'habiter tout près... plutôt que par rapport à quelqu'un qui vit dans le Kansas, elle pouvait y aller facilement. Mais ça semblait loin en même temps. Donc elle dit « La seule différence entre quelqu'un du Kansas et moi, c'est que depuis le Kansas, on fait le saut de l'immigration qu'une fois, alors que moi, je tentais de multiples incursions vers Manhattan pour retrouver ensuite mon chez-moi. Le confort et la réassurance, l'ennui et l'attente avant de saisir ma véritable chance. »
Il y a ce
une
truc
pause après cette magnifique citation s'impose.
Mais oui, mais moi je trouve que du coup ça relie l'idée de ma vie a pas encore commencé.
Voilà, c'est ça.
Je deviendrai véritablement moi-même au moment
où
j'aurais quitté cet endroit.
Voilà, j'aurais quitté l'endroit.
C'est un boulet au pied, quoi. Le Bronx, c'est le boulet.
Voilà, on la sent bloquée, ouais, dans l'attente d'un mieux, effectivement.
Mais c'est en réalité c'est une position qui peut paraître un peu cruelle, voire un peu prétentieuse. enfin, même si je la partage, hein, mais...
Oui, voilà, mais on vient d'en parler pendant longtemps, mais voilà, c'est vrai qu'on sait pas trop comment
parler. Comme ça, il y a un peu un truc comme ça, comme si elle se destinait à mieux... Enfin, tu vois, il y a un truc, elle sent qu'elle mérite Manhattan beaucoup plus que le Bronx, machin. Mais en même temps, elle sait qu'elle doit éviter de se laisser entraver par un contexte et une origine. Et en fait, c'est ça qui fait toute sa force. Parce qu'elle se donne véritablement les moyens de dépasser les barrières géographiques, qui sont aussi donc des barrières sociales. Parce que mais après, c'est salutaire, hein, parce que si on est trop humble, le risque, c'est vraiment de tomber dans le déterminisme. Et trop rester à sa place, ça ne fait rien évoluer.
Non, clairement.
Elle sort vraiment des clichés aussi dus à son sexe, hein, parce que je pense qu'on peut aussi aborder cette question-là. Enfin, sexe, origine et famille, dans son comportement face à son mariage raté, sa solitude un peu, sa manière de vivre, elle aurait presque une habitude considérée, enfin une attitude plus qu'une habitude, considérée comme masculine, dans les grandes lignes.
Ouais, tout à fait.
Enfin, tu vois. Et elle se laisse jamais entraver par ce qui devrait être la vie d'une femme, de ce qu'on aime dicter aux femmes en termes de...
La docilité.
Ouais, et puis de stabilité, quoi. Ouais. Enfin, ce genre de choses. Après, c'est aussi le cas pour Colette, évidemment, hein, mais évidemment aussi pour Laura Stanheim.
Ouais, l'ambition professionnelle comme moteur, c'était déjà difficile à concevoir aussi à l'époque, pour une nana, et d'autant plus... Quand elle vient d'un monde très modeste.
Bah ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ça mélange un peu toutes les contraintes, entre guillemets.
Tout à fait.
Toutes les difficultés. Mais dans tous les cas, elle matérialise un espèce de discours qu'on entend beaucoup aujourd'hui, notamment en ce qui concerne justement le décloisonnement de la condition féminine ou de la condition sociale. Elle nous parle de ce qu'il faut faire pour avancer, pour atteindre un objectif. Et ce qu'il faut faire, ce n'est pas rester statique, c'est entrer en mouvement. Et moi, en sens, Viviane Gornick, je l'ai presque pris comme un espèce de bouquin guide.
Développement personnel.
Oui, mais c'est presque ça, tu
presque
sais.
Presque ça, ouais.
Enfin, un côté un peu gourou, genre, ok, montre-moi le chemin.
Oui, et en même temps, elle le fait, moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'elle le fait, elle ne donne pas des préceptes. En fait, elle n'est pas entière dans ce qu'elle dit, dans le sens où elle dit pas j'y arriverai par tous les moyens, enfin c'est pas du tout dans l'agressivité, en fait c'est plus dans la réflexion sur comment elle appréhende les choses, qu'est-ce qui va pas de son milieu d'origine, pourquoi elle veut aller ailleurs, elle sent que c'est son côté créatif, son côté artistique aussi, qui la pousse aussi à envisager d'autres territoires, d'autres terrains de vie, quoi.
Après c'est peut-être facile aussi, enfin facile dans le sens où c'est un bouquin, je veux dire, cette dame aujourd'hui, elle a plus de 70 ans. C'est un bouquin qu'elle écrit avec un regard un peu presque extérieur, mature, pour le coup, même plus que mature, sur ce qu'elle a vécu.
Avec énormément de recul,
effectivement. Ouais, et je pense qu'elle a eu le temps aussi de réfléchir vraiment à quels ont été ses choix, pourquoi elle les a faits, et qu'il se trouve que ces choix ont été concluants, qu'elle vit aujourd'hui la vie qu'elle aurait rêvé, en fait, qu'elle rêvait gamine.
Ouais, elle a atteint son objectif, ça doit être, sa maturité qu'on ressent dans le texte. Et alors, bon, cette idée d'atteindre un objectif et d'atteindre une situation meilleure, pour découvrir, ne serait-ce que pour découvrir d'autres choses aussi, ça peut être ça peut être l'exploration et l'aventure, l'exploration plutôt, je dirais. C'est une idée qu'on retrouve dans Americana, qui est donc le quatrième roman de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est donc une autrice qu'on vénère. Est-ce que ce serait le bon terme? Non, je suis un peu dans la... On veut pas être comme ça, mais ouais.
Tu es extrême, là.
Je suis un peu extrême.
Tu en fais trop.
Mais bon, et clairement, ce roman, c'est celui qui a propulsé en fait l'autrice sur la scène internationale. S'échapper pour le meilleur et pour aller plus loin, c'est en fait ce que fait Ife Melou, qui est la protagoniste du roman. Alors, quelques mots sur l'intrigue d'abord, avant toute chose. Americana, en fait, c'est le nom que les Nigérians donnent à leurs compatriotes qui reviennent au pays après un long séjour aux États-Unis. Ce qui est donc assez récurrent, enfin commun pour les jeunes Nigérians.
C'est assez ordinaire.
Donc on suit le chemin de Ife Melou, qui est issue d'un milieu modeste à Lagos, et on suit son désir de poursuivre ses études pour se sécuriser un avenir professionnel un peu plus souriant que ce qui se profile pour elle au Nigeria. Et pour cela, malheureusement, il n'y a qu'une seule solution qui est assez radicale et difficile, qui est de s'expatrier aux États-Unis. Et pour elle, ça signifie, donc elle a une vingtaine d'années, et ça signifie notamment quitter sa famille déjà, et le garçon qu'elle aime. Voilà, donc c'est un contexte de départ un peu douloureux.
Qui est super, le garçon qu'elle aime.
Oui, en plus,
il peut dire juste ça, vite fait, il est trop bien.
Il n'existe pas.
Il n'existe pas.
Et au-delà des perspectives plus larges qu'offre une expatriation aux États-Unis, on se rend compte qu'elle fut aussi un système qui tend à l'étouffer, qu'on trouve qui est assez étouffant. Chimamanda Ngozi Adichie nous parle un peu de la société nigériane de l'époque. Alors ça, c'est dans les années début des années 2000, donc pas si ancien. Elle lutte un peu avec sa condition de femme hein, dans le Nigeria de ce moment-là, où la femme, effectivement, pour progresser socialement, visiblement, doit en tout premier lieu se trouver un mari ou un protecteur, entre guillemets, et où la richesse financière est le critère numéro un de réussite sociale, plus ou moins, c'est ce qu'elle nous dit. Sans juger, en fait, Ifemelu cherche à échapper à ce système. Elle le critique pas vraiment, mais on sent que elle cherche à s'en affranchir en choisissant les États-Unis comme son nouveau foyer. Mais elle se rend compte par la suite que le système est source, enfin le nouveau système, donc le système des États-Unis, est source d'autres entraves à sa liberté, et notamment en tant que femme, en tant qu'intellectuelle ou en tant que femme noire, justement. Et c'est d'ailleurs parce qu'il traite de tous ces sujets qu'Americana, en fait, est un livre aussi important et aussi poignant, parce que sous l'histoire, sous la romance, sous l'intrigue, on a de vraies analyses sociétales et de vrais questionnements. Parce que, en fait, cette arrivée aux États-Unis, au-delà des difficultés évidentes hein, de survie que comporte une telle démarche, donc trouver un boulot, un visa, un appartement, elle n'a pas beaucoup d'argent, enfin, c'est quand même assez ardu comme arrivée.
Elle est assez seule aussi.
Elle est seule, ouais. Oui, elle fait tout ça toute seule, oui. et au-delà de ça, on assiste en fait à un vrai bouleversement identitaire en fait quand elle arrive aux États-Unis, en fait à travers le regard des autres et l'organisation de la société telle qu'elle est, elle découvre entre guillemets qu'elle est noire. C'est le sujet du livre. En fait, elle se confronte pour la première fois de sa vie au racisme ordinaire. Aux réflexions totalement déplacées de gens blancs. Hein, et en fait, on sent qu'elle tente de s'intégrer dans une société qui, du coup, hiérarchise noir et blanc. Et c'est totalement inédit pour elle et ça la bouleverse complètement. Le décalage se renforce encore en plus quand elle rencontre d'autres noirs à la fac. Elle se rend compte que même entre noirs américains ou noirs africains, il y a une différenciation en fait, un discours différent sur ce qu'est l'identité selon origine afro-américaine ou africaine, etc., selon les contextes. Et ça la déstabilise totalement, du coup.
Bah ouais, elle est complètement déroutée par tout ça. Mais il y a quand même un truc, c'est qu'elle ne se laisse jamais sombrer.
Ouais.
Enfin, en quelque sorte, elle en fait même presque sa force. Hein. Une fois qu'elle trouve une certaine stabilité, parce qu'elle elle rebondit pas tout de suite. Hein. Il y a quand même un temps dans le roman, notamment au début, quand elle arrive aux États-Unis.
Il y a des galères.
Ouais, il y a des galères, c'est critique. Le moral, franchement, il est pas là.
Enfin, ouais, non, c'est compliqué.
C'est compliqué. Mais
on a mal pour elle d'ailleurs. On se sent seul avec elle dans le bouquin.
Ouais, c'est ça. Mais enfin, à un moment, elle décide quand même de documenter en fait tout ce qu'elle vit dans un blog qu'elle nourrit de témoignages doux amers. Bon, c'est tantôt drôle, tantôt tragique. Surtout tragique.
Ouais, surtout.
Hein, voilà. Mais dedans, elle fait le récit d'expériences de vie, dont quelques-unes assez déstabilisantes, comme, c'est tout bête, mais très parlant, la difficulté de trouver un coiffeur qui puisse coiffer ses cheveux crépus. Et en fait, elle questionne la réalité de la vie aux États-Unis en tant que noire et en tant que femme sans cesse. Et elle va tenter de l'analyser franchement, hein, presque sociologiquement à travers ce blog-là. Mm. Et pour le coup, dans le sens, Americana, c'est presque une photographie des États-Unis au début du XXIe siècle, au moment de l'élection de Barack Obama. Ouais. C'est d'un point de vue racial et aussi extérieur au pays. Et c'est vraiment pas qu'un simple roman, hein, comme tu le disais. Mais aussi, pour revenir à l'autofiction, dont on a beaucoup parlé là dans cette émission, on se dit que l'autrice a probablement pioché dans ses propres expériences pour écrire tous ses billets de blog, puisqu'elle s'est elle-même installée aux États-Unis de la même manière que son personnage. Et d'une certaine manière, l'excuse de faire créer un blog par son personnage principal a peut-être permis à Chimamanda Ngozi Adichie de s'offrir un espèce de terrain d'expression libre, une espèce de tribune pour s'exprimer sans détour sur des sujets un peu minés, et qui pour le coup la concerne aussi directement. Le style est direct, sans concession, sincère, assez loin du politiquement correct, mais moi personnellement j'ai trouvé que ses billets de blog étaient hyper pertinent, ouais. En fait.
C'est très acéré et très, très juste. Enfin,
C'est brillant.
On imagine que c'est juste, puisqu'on ne l'a pas vécu nous-mêmes. Mais, et j'ai trouvé ça bien aussi dans le fait que Ifemelu, elle arrive, elle est en position de vulnérabilité totale, puisqu'elle vient d'un autre pays, elle a un autre accent, elle n'a pas d'argent, elle cherche un travail. Enfin, c'est extrêmement difficile comme itinéraire. Mais une fois, effectivement, comme tu disais, qu'elle se met un peu sur pattes, elle arrive à suivre son cursus universitaire, elle trouve un appartement, etc. Elle se forme un tissu social avec des amis, etc. Donc, elle arrive à faire des États-Unis sa maison, elle est installée. Là, elle reprend, entre guillemets, du poil de la bête et elle a ses réflexions sans détour sur la société. Et je trouve ça intéressant de pouvoir décrire un personnage de cette manière-là, sans misérabilisme, entre guillemets, parce que c'est quand même très, très dur. C'est vrai que quand on regarde son parcours, c'est douloureux, mais au travers de ces analyses, on sent qu'il y a une vraie force.
Et puis une intelligence.
Il n'y a aucun apitoiement sur elle-même, et c'est... Ouais, et c'est
puis,
passionnant.
Surtout, ce qui est quand même hyper intéressant, c'est que finalement, une fois qu'elle est installée, qu'elle a son blog, presque elle commence à gagner de l'argent. Enfin, je veux dire, elle est
hyper successful.
Et à ce moment-là, elle rentre chez elle.
Elle rentre chez elle.
Elle se barre. Allez, salut.
Et oui, après s'être déracinée de son pays, d'avoir subi une séparation avec on va dire, l'homme de ses rêves, je tente l'expression complètement guimauve. Elle décide en fait de revenir à son pays d'origine. Et c'est aussi ces deux voyages qui rendent le récit assez profond, puisqu'ils ont des significations différentes en fait pour le personnage. Ouais. On a deux démarches différentes. Le premier est un voyage vers l'inconnu total et une vraie tentative de nouvelle vie. D'ailleurs, ce voyage-là lui nourrit elle aussi son inspiration, un peu comme Viviane Gornick au final, puisque ça nourrit son blog. Avec son blog, elle a du succès, elle arrive à vivre de son écriture, donc son expérience personnelle à travers ce voyage nourrit carrément sa créativité. Et le deuxième voyage, on pourrait penser que c'est un voyage du renoncement, parce que effectivement elle a réussi à établir sa vie aux États-Unis avec tout le succès que ça peut comporter, mais elle sent que elle doit être au Nigeria, elle est pas chez elle. Donc on pourrait penser que c'est du renoncement par rapport au succès, mais en fait c'est plutôt un voyage de certitude, on va dire même presque de maturité, c'est-à-dire qu'elle pose un regard sur son expérience, les dernières années qu'elle a passées aux États-Unis, et elle se sent en force en fait de revenir au Nigeria. Accessoirement, en fait, c'est aussi le moment où elle retrouve, qui lui permet de retrouver son fameux amour de jeunesse qu'elle avait quitté à son premier départ. Et faut l'admettre. Alors moi, je préfère les histoires qui finissent mal en général. C'est mon côté un peu sombre. Mais là, il faut admettre quand même qu'on est bien contente que ça se termine bien pour Ifemelu.
Faisons mentir la chanson. Les histoires d'amour finissent pas mal en réalité.
Voilà. Et on remercie Chimamanda de nous avoir fait cette fin plus...
Cette petite faveur.
Oui, voilà. Faveur.
C'est presque cool. Mais après, de toute manière, de manière globale, les quatre livres dont nous venons de vous parler se terminent tous dans leur genre bien.
Ouais.
Il se termine bien car toutes ces femmes ont décidé de leur destin. J'avoue, peut-être que la petite fille en moi aurait aimé quelque part que Colette se laisse tenter une dernière fois par l'amour, mais en réalité, ça aurait presque été fictif, parce que c'est la liberté qui importe dans ces livres et dans tous les autres. C'est pas tant le happy end qui est véritablement important, mais c'est le cheminement et le fait que ces femmes se soient véritablement accomplies et qu'elles soient heureuses de leurs conditions, qu'importe le qu'en dira-t-on.
Tout à fait. Et bien voilà, merci d'avoir écouté ce premier épisode de La Vagabonde.
Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout.
On n'est pas peu fiers d'avoir réussi à l'enregistrer. Et c'est le temps des remerciements, donc merci à Bastien Jackson pour le montage, à Théophile Denis pour la musique et à David Dupoirieux pour le matériel. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram à La Vagabonde Podcast, où nous partageons nos lectures, nos écoutes, nos coups de foudre ou nos coups de gueule.
Et aussi nos petits chats,
par exemple.
Allez, salut!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.